Chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, vous êtes dans votre émission Histoire, Mémoire et Transmission. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Dimitri Vouzel, professeur d'histoire au lycée Charles de Gaulle à Dijon, qui vient d'être lauréat du prix Vianney pour son dernier ouvrage, Pionnier de la Résistance, le réseau Grenier-Godard, qui est paru, je crois, en 2022. Livre très intéressant, très important. Donc, bonjour, monsieur Vouzel.
Bonjour. Bien.
Ce que je vous propose, avant de présenter le livre, c'est en quelques mots de vous présenter et de rappeler pourquoi vous écrivez des livres d'histoire.
Oui, donc je suis enseignant au lycée Charles de Gaulle. J'ai la chance également d'être responsable du service éducatif aux archives départementales de la Côte d'Or. Et donc, en fait, ma passion, ce sont les traces du passé, autrement dit les archives, et en particulier les archives contemporaines, donc de la période qui va des années 1920 jusqu'au début des années 1950.
Très bien. Et vous avez aussi des liens avec le Muret de la Shoah, je crois.
Oui, donc je travaille pour eux en tant que médiateur pour les ateliers hors les murs, donc fait le Mémorial de la Shoah dans différentes académies de France.
Très bien. Alors venons-en au livre « Pionnier de la résistance, le réseau Grenier-Godard », 1940-1942, qui est publié aux presses universitaires de Dijon. Parlez-nous de ce réseau qui finalement est très important, mais peu connu, même s'il existe une plaque dans une des rues de la ville de Dijon.
Oui, donc il y a une plaque au 43 rue Sommez, donc dans le quartier Saint-Michel, qui rend hommage en particulier au fils de la chef de ce réseau. Donc c'est René Grenier-Godard qui était le fils. La chef du réseau, c'est donc sa mère, Blanche Grenier-Godard, qui est née elle, en 1900, qui est dijonnaise après son mariage, donc dans les années 1920, elle s'installe à Dijon. Et donc, au début de la guerre, elle est infirmière militaire. Et effectivement, c'est un réseau qui est un réseau de passeurs, alors de passeurs de prisonniers de guerre en premier lieu, également d'agents secrets, et puis aussi de juifs, fuyant donc les persécutions antisémites à partir de 1941 jusqu'à l'été 1942. Puisqu'en l'été 1942, c'est le moment où la chef du réseau est arrêtée, ainsi que son fils. Et l'intérêt, par rapport à ce que vous disiez, c'est qu'en fait, c'est un réseau qui a été connu jusqu'au début des années 1950, puisque 1949, il y a la pose de la plaque, rue Sommez. 1949, il y a également une cérémonie avec la remise du drapeau du réseau. Et puis 1950, vous avez aussi une cérémonie à Dijon avec la remise de diplômes pour les passeurs de ce réseau. Et vous avez une cérémonie à Paris, aux Invalides et à l'Arc de Triomphe. Et ensuite, par contre, à partir du milieu des années 1950, jusqu'à la mort de Blanche Grenier-Godard en 1974, il y a donc un oubli et c'est un réseau qui sort de l'histoire de la Résistance.
Et pourquoi sort-il de l'histoire ?
Il y a plusieurs explications. La première, je pense, c'est parce que donc elle a été déportée. Donc, quand elle revient à Dijon, ça fait déjà un an presque que la ville a été libérée. Donc, par exemple, elle a été absente lors des cérémonies et des fêtes qui ont suivi la libération de Dijon le 11 septembre 1944. Elle a été absente également lors de la fête qui a suivi la capitulation le 8 mai 1945, donc elle ne revient à Dijon que fin juin, début juillet, donc elle a un déficit, je dirais, de notoriété à ce moment-là. Et puis surtout, quand elle revient, elle repart tout de suite, puisqu'elle est extrêmement marquée par la déportation, et donc elle va partir une année en convalescence dans une clinique en Suisse. Donc quand elle revient vraiment à Dijon, c'est 1946, et quand elle revient, eh bien, tous les hommes qui ont participé à la résistance armée, eux, sont connus, reconnus, alors qu'elle, elle l'est peu. Le deuxième facteur, c'est que c'est une femme. Et donc, dans le monde de la résistance, les femmes ont joué un rôle très important. Elles ont été nombreuses. Dans le réseau Grenier-Godard, il y a à peu près 20% des membres qui sont des femmes. La chef est une femme, d'ailleurs. Mais l'histoire des femmes dans la résistance, elle intéresse peu en 1945. Il faut attendre à 1975, par exemple, pour qu'il y ait le premier colloque sur la résistance des femmes. Blanche Grenier-Godard, elle est morte en 1974, donc l'année précédente. Et ça, je pense que c'est un point essentiel. Pendant très longtemps, c'est une catégorie de résistants qui a été en fait occultée. Et puis peut-être la troisième raison, c'est que C'est une femme également qui est, par rapport à son caractère, sans concession. Et donc elle avait besoin d'être comme ça, hein, pour prendre la tête de son réseau, pour organiser un réseau de résistance, pour partir de rien, pour également survivre pendant ces plus de 2 années de déportation. Son caractère était certainement très indispensable pour tout cela, mais son caractère, elle le garde aussi après-guerre. Donc elle va l'utiliser pour faire homologuer son réseau en 1948, pour faire reconnaître également les membres de son réseau, hommes et femmes, mais en même temps, elle garde sa personnalité, hein, qui est donc, je le redis, je pense, sans concession. Et par exemple, elle va être nommée, elle va faire partie d'une des commissions départementales qui avait pour but d'attester de l'appartenance de combattants volontaires de la résistance, mais elle va être nommée uniquement comme suppléante. Et donc, parce qu'elle est suppléante, en fait, elle ne va plus siéger à cette commission. Donc, elle va aussi se créer, je pense, quelques inimitiés. Et puis, elle aura aussi une remise en question. Il y aura, dans les années 1951-1952, un certain nombre de résistants locaux qui vont jeter le doute, et j'allais dire le trouble, sur la réalité de sa résistance et sur la réalité de son réseau. Donc, il y aura un certain nombre d'échanges, il y aura des suspicions qui vont apparaître, qui sont liées peut-être à une certaine misogynie, qui sont liées peut-être aussi à une certaine jalousie, qui vont apparaître au début des années 1950, et je pense que ça a laissé aussi des traces. Et donc, je vous dis, à partir de 1952-53, on ne parlera plus du tout d'elle. Il y aura dans les années 1960 et début des années 1970 des études, hein, qui seront faites par des correspondants locaux du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui vont beaucoup travailler sur la résistance. Eh bien, en fait, le réseau Grenier-Godard n'apparaît nulle part. Pour qu'on reparle d'elle, il faut attendre 1974, sa mort. Il y a une petite hagiographie dans le public et les dépêches qui rappellent qu'elle a été une grande résistante et qui rappellent les différents camps où elle a été déportée. Et puis ensuite, il faudra attendre les années, donc 1984, il y aura un historien local qui abordera dans un livre sur la résistance quelques faits réalisés par elle et ses agents.
Donc aujourd'hui, aujourd'hui il n'y a pas de confusion. Ce réseau a bien existé.
Ah oui, bien sûr.
Il a bien eu cette importance dont vous avez parlé.
Oui.
Donc je crois qu'il faut que vous reveniez sur l'origine de ce réseau.
Oui.
Comment il se développe, sa puissance, son efficacité, oui. Et ce qu'on peut en dire du point de vue synthétique.
Alors ça, de façon synthétique, donc c'est un réseau.
Comment démarre-t-il?
C'est un réseau familial, puis un réseau de quartier. Donc ça démarre tout simplement par de la pitié, je pense, de la générosité et du patriotisme. En fait, il faut se rappeler que Dijon est occupé donc, par les Allemands à partir du 17 juin 1940. Et une particularité de Dijon, c'est qu'il y a un camp pour les prisonniers de guerre français qui est donc établi sur l'ancienne base aérienne de Dijon, donc à Longwy-les-Dijon. Et donc dans ce camp, dans ce qu'on appelle c'est un Frontstalag, c'est le numéro 155, dans ce Frontstalag, il y a entre 30 et 40 000 soldats français qui sont donc internés. Et donc Blanche Grenier-Godard, elle est infirmière et elle va avoir accès au camp de prisonniers de Longwy. Et en ayant accès à ce camp, en fait, elle va très rapidement avoir des contacts avec des soldats qui veulent s'évader. Et c'est comme ça que ça commence. La garde allemande, au départ, elle n'est pas très serrée, donc il est encore possible de partir de différentes manières, soit en chantier extérieur, soit également par les égouts. Et donc, en fait, ces prisonniers qui sont évadés, eh bien, c'est comme ça qu'elle commence, en fait. Elle va avoir quelques prisonniers, et ensuite, elle va demander l'aide de ses voisins, l'aide des commerçants de son quartier, donc les commerçants du quartier Saint-Michel, qui vont fournir des vêtements civils, qui vont fournir de la nourriture, qui vont également fournir l'hébergement, hein, parce qu'une fois qu'on est évadé, c'est pas terminé, il faut passer en zone non occupée, qui vont aussi aider à la réalisation des faux papiers. Donc voilà comment les choses se mettent en place. On est en juin, donc quasiment dès le début de l'occupation de Dijon, juin 1940. Et donc ça va petit à petit se développer par connaissance. Par exemple, elle recrute le fils de son cordonnier de la rue Musette. Elle va aller chercher de la viande chez le boucher de la rue Sommez. Rue Janin, qui est donc une rue perpendiculaire à la rue Sommez, là il y aura 2 épiciers qui vont fournir la nourriture. Dans le quartier des communautés religieuses, elles vont servir aussi d'hébergement. elles vont fournir des vêtements civils. Donc les choses se font en fait petit à petit. C'est une résistance réelle, puisque ça concerne des évadés. Ça va concerner plusieurs centaines, plusieurs milliers en fait d'hommes durant tout le déroulement de ce réseau, puisqu'il dure jusqu'à l'été 1942.
Plusieurs milliers, on est bien d'accord.
Oui, donc plusieurs milliers. Alors elle dit 8000. D'autres sources sont plutôt sur 5 ou 6 000. Une fois que les prisonniers ont été évadés, ensuite il faut les faire passer en zone sud. Et donc là, elle va utiliser deux filières. Les cheminots de Périgny. Donc là, les prisonniers sont emmenés par les fils de Blanche Grenier-Godard, sont emmenés au dépôt le soir. Et ensuite, ils sont cachés dans les trains qui partent direction la zone sud. Et puis deuxième voie, c'est par plus classique, par les passeurs en Saône-et-Loire. Donc là, ils vont descendre jusqu'à, pour certains, jusqu'à Sœur. Et ensuite, il y a des passeurs qui vont donc leur faire traverser la ligne de démarcation. Ou alors d'autres vont descendre jusqu'à Monceau-les-Mines. Et là, il y a des passeurs qui vont les faire passer à pied, donc de façon plus traditionnelle peut-être dans l'imaginaire que l'on a des passeurs de la ligne de démarcation, qui vont les faire passer également en zone non occupée.
Donc ça, c'est des dimensions importantes de la résistance, solidarité, passage, y compris passage de combattants secrets, j'imagine.
Oui, alors ça va venir après. Et donc ça, c'est aussi peut-être une question à aborder, c'est la question des sources. Comment est-ce qu'on peut écrire l'histoire d'un réseau qui a laissé peu de traces, puisqu'en 1940, ils ne prennent pas de notes, c'est la clandestinité, donc il ne faut pas laisser de traces qui pourraient être dangereuses s'il y avait une perquisition ou une arrestation. Donc en fait, il y a aussi des archives privées que j'ai utilisées, et dans ces archives privées, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, parce que Blanche Grenier-Godard expliquait qu'elle avait des ramifications en Belgique. Et donc il y avait des agents secrets qui venaient depuis la Belgique et qui arrivaient aux rues Sommaise et qui ensuite étaient passés pour aller à Lyon ou pour aller en Afrique du Nord. Bon. Et donc en fait, il y a qu'elle qui parlait de ça. Donc on comprend que l'historien, il peut être circonspect par rapport à cette source, parce qu'on peut aussi parfois inventer, on peut enjoliver la réalité. Et en fait, dans mes recherches, j'ai pris contact avec des descendants de résistants, une petite fille notamment d'une résistante belge. Elle avait dans ses archives privées, elle avait un document hors du commun qui est reproduit dans le livre, qui en fait expliquait comment aller depuis Liège jusqu'au 43 rue Sommaise. Et donc on expliquait en détail, il faut prendre tel train, descendre à tel endroit il faut aller dans tel hôtel, etc. etc. Ensuite vous arrivez au 43 rue Sommaise et de là, ben, Madame Grenier-Godard et son fils vous feront passer à Lyon, etc. etc. Et donc ça, c'est des documents précieux qui montre qu'en fait, dans ce domaine-là, elle ne fabulait pas. Et donc oui, il y a des agents secrets qui passaient également par le réseau Grenier-Godard.
Vous avez parlé aussi éventuellement de renseignements fournis.
Oui, alors les renseignements, donc en fait, ça peut sembler, j'allais dire, anodin, mais comme il y a des cheminots qui sont dans le réseau Grenier-Godard, ces cheminots vont noter les trains allemands qui passent par le dépôt. Et en particulier, ils vont relever tous les trains qui transportent du matériel militaire. Et donc, c'est peut-être anodin, mais en réalité, ces informations-là, ensuite, elles étaient envoyées soit au deuxième bureau à Lyon, soit elles étaient envoyées aux Alliés. Et après, ça permettait à eux d'avoir une vision d'ensemble du déplacement des troupes allemandes et du déplacement également du matériel. Donc, c'est ça le renseignement militaire qui est donc fourni. Après, ils font aussi parfois du relevé. Donc ils vont relever l'emplacement de fortifications et également de troupes allemandes.
Comment le réseau a été identifié et repéré, puisque j'ai compris qu'elle avait été déportée. Donc est-ce que le réseau a complètement chuté avec son arrestation ou est-ce que...
Alors des arrestations, il y en a dès 1940 en fait. D'accord. Dès 1940, il y a des passeurs qui sont arrêtés, les Guillemins qui sont arrêtés et le père est condamné à 1 an de prison. Après, il y aura d'autres arrestations. 1941, Blanche Saillard, c'est une agent qui est du côté du Jura et qui elle aussi est arrêtée et déportée en Allemagne. Et puis, l'arrestation, en fait, elle a lieu de René, elle a lieu au pont de Navilly, donc près de la ligne de démarcation, elle a lieu par une patrouille allemande, donc c'est plutôt fortuit. Il est en train de passer des prisonniers et donc il y a une patrouille allemande qui l'arrête. Alors, c'est un mineur, hein, donc à l'époque. Donc lui, au départ, il ne le dit rien, mais comme il est mineur, les Allemands se doutent bien qu'il a des parents. Et suite des interrogatoires, il va finir par donner son nom, et c'est comme ça que les Allemands arrivent. Donc on est au mois de juillet 1942, donc quelques jours après l'arrestation de René, ils arrivent au 43 rue Sommez, un petit matin. Vous avez Ludwig Kramer qui travaille donc à la CIPOSD, et qui va arrêter Blanche Grenier-Godard ainsi que son mari Alphonse-Élisée Grenier-Godard. Alphonse sera relâché quelques semaines après, parce qu'en fait, elle a tout pris sur elle, en disant que lui, il ne savait rien. Et effectivement, lui, il avait un rôle peu important. Lui, c'était surtout un rôle de surveillance dans le quartier pour voir s'il n'y avait pas des surveillances allemandes ou des collaborateurs. Et lui était un ancien gazé de la Première Guerre mondiale. Donc, les Allemands l'ont finalement libéré au bout de quelques semaines. Par contre, elle et son fils n'ont pas été libérés. Ensuite, ils ont été transférés à Paris. Et en mars 1943, ils ont été transférés en Allemagne, donc en tant que détenus nuit et brouillard, selon le décret Keitel de décembre 1941.
Rappelez peut-être ce que c'est que...
Alors le décret Keitel, donc il faut rappeler qu'en 1941, les Allemands ont mis en place une politique qu'on appelle une politique des otages. Donc quand il y a un officier allemand qui est abattu, il y a ensuite en rétorsion plusieurs dizaines d'otages français, principalement communistes et juifs, qui sont donc effectivement abattus. Sauf que les Allemands considèrent que ce n'est pas une peine assez lourde parce que ces otages qui ont été abattus deviennent ensuite des martyrs. Et donc, ils vont peut-être susciter d'autres vocations. Donc, le décret Keitel, le décret donc, qu'on appelle Nacht und Nebel, nuit et brouillard, il prend la décision, en fait, de déporter en Allemagne des résistants qui n'ont pas été jugés. Donc, ils n'ont pas été jugés en France, ils sont déportés. En fait, ils considèrent que c'est une peine encore plus lourde parce que les familles n'ont aucune nouvelle. Donc les familles ne savent pas ce qu'ils sont devenus, ils n'ont pas le droit d'écrire, les déportés n'écrivent pas non plus à leur famille, et ensuite ces personnes-là qui ont été déportées en tant que Nacht und Nebel sont jugées en Allemagne. C'est le cas de Blanche Grenier-Godard qui est jugée donc, en avril 1944 et qui est condamnée à mort. Peine commuée, et donc ensuite elle est emprisonnée jusqu'à la libération par les Américains en avril 1945.
Elle était dans quel camp ?
Alors elle n'a pas fait de camp. Elle a fait que des prisons. D'accord. Donc elle a fait la prison principale, c'est Jauer. Donc Jauer, c'est en Silésie, donc c'est pas très loin de Breslau, donc Wrocław en polonais aujourd'hui. Et en fait, c'est une vieille forteresse qui a été transformée en prison, dans laquelle il n'y a que des femmes, donc des femmes Nacht und Nebel. Elle a retrouvé d'ailleurs plusieurs de ses compagnes. Elles sont au moins 5 femmes du réseau Grenier-Godard à avoir été internée donc à la prison de Jauer. Et ensuite, elle est, quand les Russes arrivent, elle est transférée à Aichach. Aichach, c'est en Bavière. Et c'est en Bavière qu'elle est libérée par les Américains. Son fils lui fait des camps. Donc son fils, il fait René Grenier-Godard, dont il y a la plaque. Lui, il fait le camp d'Inzert. Donc Inzert, c'est un petit camp. C'est un SS Sonderlager. Donc il y a des très jeunes, parce que lui, il a 17 ans hein, quand il est dans ce camp. Il y a des personnes plus âgées. Et c'est un camp, moi j'estime que ça correspond un peu, comment je pourrais expliquer ça. C'est un camp d'initiation, c'est affreux ce que je vais dire, mais en fait, c'est vraiment la prise de contact avec l'univers concentrationnaire nazi, en fait. Donc il reste pas longtemps, hein. Il reste 2-3 mois avant d'être mis dans les prisons et ensuite d'être jugé. Mais c'est un camp de concentration extrêmement dur. Aujourd'hui, il ne reste plus rien, il y a un mémorial, il y a quelques tombes, mais c'est à la frontière entre l'Allemagne et en fait le Luxembourg. Donc lui, il fait Inzert, ensuite il va être condamné, non pas à mort, parce que c'est un jeune, il va être condamné à plusieurs années de prison, et il va être dans des prisons allemandes, notamment à la prison de Schweinitz. Et quand les soviétiques arrivent, il est sorti avec ses autres camarades de captivité, et cette fois-ci, il va être dans des camps de concentration. Il va être à Gross-Rosen. Et ensuite de Gross-Rosen, il va être transféré à Dora, Mittelbau. Et à Dora, en fait, il est déjà physiquement très atteint. Et un de ses compagnons, que Blanche a retrouvé après la guerre, et qui raconte, c'est comme ça qu'on le sait, en fait, parce que lui est mort. Hein. Donc lui, on ne sait pas ce qu'il a vécu de sa bouche, mais on sait par des compagnons de captivité. En fait, en mars 1945, il va être... mis comme plusieurs milliers d'autres détenus qui ne peuvent plus travailler, il va être mis dans ce qu'on appelle la Bolke Kaserne. Donc la Bolke Kaserne, il faut imaginer, ce sont des grands hangars à tanks, et donc ils déposent les corps un peu comme... Et là, il va mourir, quoi. Littéralement. Ils ne les nourrissent pas. Voilà, et c'est un pourrissoir, quoi. C'est le terme que j'utilise. On peut parler de pourrissoir. Et c'est là qu'il meurt, quelques jours avant l'arrivée des Américains. Il y a des photos prises par les Américains de la Bolque caserneuse de début avril 1945. Et en fait, la photo, c'est les morts et les vivants, quoi. Donc il y a beaucoup de morts, quelques vivants, dont quelques-uns ont survécu, par chance. Mais lui, malheureusement, n'a pas survécu.
Alors, est-ce que ce réseau Grenier-Godard va continuer après l'arrestation de sa responsable?
Alors, en fait, après, il y a encore des passeurs qui vont continuer, parce que la ligne de démarcation, elle dure encore quelques mois. Mais il y aura un grand coup de filet qui aura lieu en décembre 1942, où, en fait, ce coup de filet est dû à l'infiltration par un Alsacien qui s'est fait passer pour un Alsacien réfractaire. Et donc, il a été intégré à tout groupe des passeurs. Il a fait des passages lui-même, d'ailleurs. Et puis, quand il a identifié tous les passeurs, ensuite, après, il les a dénoncés. Ils ont tous été arrêtés. Et puis, d'autres vont continuer en tant qu'individuels, mais le réseau n'existe plus, en réalité. Le réseau s'arrête en juillet 1942. À titre individuel, certains vont s'engager plus tard dans les maquis, mais ce n'est plus le réseau Grenier-Godard. Par contre, je trouve un point important, c'est que la résistance de Blanche Grenier-Godard ne s'est pas arrêtée en juillet 1942. Parce qu'elle a survécu jusqu'en avril 1945. Et certains déportés considèrent que survivre à l'univers concentrationnaire nazi, c'est aussi une forme de résistance. C'est bien sûr pas la même, mais c'en est une aussi. Alors vous avez Eugène Marlot, qui aussi est un résistant dijonnais, alors d'un autre groupe, qui était Baunois, qui lui explique que, pour lui, et je souscris à ses paroles, survivre dans un camp de concentration, c'était aussi résister. Puisque Très le but bien. Des nazis était de vous annihiler.
Très bien. Monsieur Vouzel, je rappelle que vous avez eu le prix Vianney délivré au Sénat, qui est un prix qui était organisé par la Fondation de la Résistance, puisque le prix initial, enfin l'organisation initiale avait disparu, et c'est réorganisé avec la Fondation de la Résistance, au décès, je pense, de M. Vianney, le fondateur du prix. En tout cas, il vous a été remis en 2023. Pour votre ouvrage, que j'invite tous les auditeurs de Tris à lire, qui s'appelle donc « Pionnier de la Résistance, le réseau Grenier-Godard », 1940-1942, aux presses universitaires de Dijon, donc écrit par M. Dimitri Vouzel, et préfacé par le directeur des archives départementales de la Côte d'Or, M. Édouard Bouillet. Je vous remercie. Vous étiez dans votre émission Histoire, mémoire et transmission sur Shalom Bourgogne. À bientôt.